Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants? Des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler? Des livres avec des personnages racisés? Des livres loin des stéréotypes? Des livres non genrés? Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Priska ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires d'un autre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je ne peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous le 15 septembre sur la boutique en ligne lesenfantsdubruitdeleodeur.com.
Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai astronaute. Astronaute.
Salut Ulrich.
Salut Priska.
Comment ça va aujourd'hui?
Bah écoute, je vais très très bien. Et toi, comment vas-tu?
Bah écoute, je suis contente de t'avoir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu quand même. Depuis la dernière fois, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait un épisode toutes les deux?
Je pense que ça doit faire au moins 4 épisodes, au moins 4 ou 5.
Non mais au moins plus que ça, hein, je t'assure, hein, ça fait tellement longtemps.
Ouais.
En fait, aujourd'hui, on l'a décidé, hein, c'est toi qui en a parlé
oui,
aussi.
Oui. Ouais,
on a décidé de faire un épisode particulier parce que justement, pour expliquer les raisons de ton absence un petit peu ces derniers temps.
Oui. Je suis pas très très présente, on va dire visuellement et vocalement sur le podcast. Depuis un certain temps, parce que ma santé m'en empêche. Mm-hmm. J'ai été diagnostiquée il y a un an et demi d'une leucémie lymphome à HTLV1.
Oui. HTLV1.
Voilà, HTLV1, qui est un virus qui, ce qu'ils appellent un virus oncogène, c'est-à-dire qui crée des mutations en fait génétiques et qui provoque des cancers. Mm. Donc c'est la raison de ma présence peu importante sur les
après,
réseaux.
Ouais, voilà.
Et tout c'est, ça.
T'as toujours été présente derrière, mais c'est vrai
oui.
qu'on te voyait moins.
Bon, voilà, c'est ça.
Voilà. C'est pour ça qu'on nous posait souvent la question, elle est où Ulrich? Elle est où Ulrich? Bah, Ulrich, elle est là. Elle était
voilà.
là.
Je suis en arrière, je suis pas en premier plan parce que ma santé ne me permettait pas toujours. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode pour vous en parler. Et je voulais en parler, enfin, j'en parle pas pour comment vous dire, c'est pour mettre les choses au clair parce qu'avec avec vous les abonnés comme je dis les amis des enfants et du bruit de l'odeur, on a toujours ouais, été
avec
dans
les
une
amis.
Voilà, avec nos amis, on a toujours été dans une optique safe, authentique, vraie avec vous. Donc moi j'estimais que c'était important d'en parler.
Mm-hmm. Ouais.
Pour pas qu'il y ait de
quiproquo.
Voilà, c'est ça. Et puis j'en parle aussi parce que en ce moment, j'entends beaucoup partout parler de l'allaitement.
Oui.
Et moi, ma maladie, elle est liée à l'allaitement dans la mesure où ce virus que j'ai, l'HTLV1, est un virus qui se transmet par allaitement. Mm. Donc, je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas en train de fustiger l'allaitement. Mm. C'est quelque chose de formidable. Je suis tout à fait. Moi, j'ai allaité mes enfants.
Oui.
Mais je pars du principe que, étant donné qu'on est fortement incité à allaiter, même dans le milieu médical, il faudrait que ce soit fait de manière éclairée, que les mamans sachent ce qu'il y a en fait derrière l'allaitement. C'est quelque chose de formidable. On part tous, les mamans qui allaitent vont dans une optique de bien-être et de santé pour leurs enfants. Mais malheureusement, moi je parle de mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de mamans comme toi,
oui,
parce qu'on en a parlé, à aucun moment on ne m'a parlé de ce virus et à aucun moment on ne m'a dépisté.
Oui. Non, mais ça, c'est super important que tu le dises parce que c'est vrai que, enfin, moi, la première, hein, j'ai allaité mes deux filles. C'était parfois compliqué dans ma tête de savoir j'allaite pas, les raisons pour lesquelles j'ai allaité mes deux filles. Mais en même temps, tu vois, je suis pas sûre, en fait, vu notre expérience, vu ce que tu as aujourd'hui, je suis pas sûre que j'aurais été si sereine en ayant toutes les informations, on va dire, en tête, en ayant pleine connaissance de toutes ces informations, j'aurais été au moins faire un dépistage, tu vois.
Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai dit à mon oncologue. Mm-hmm. Et je lui ai dit, je ne comprends pas que ça ne fasse pas partie des maladies qui sont dépistées quand une maman est enceinte. Mm-hmm. Parce qu'il faut quand même dire, moi, j'étais pas une maman qui était... Enfin, j'étais pas partie pour allaiter mes enfants. Mmh. C'était pas quelque chose qui me parlait, l'allaitement. Et puis, j'ai été fortement, comment dire, conseillée par ma mère. Ouais. Et puis, fortement conseillée par le système médical, en commençant par mon gynéco, la sage-femme, les infirmières. Ouais. Je me suis dit, oui, en fait, oui, c'est le bien-être de mon enfant. C'est pour son bien-être. Mmh. Mais à aucun moment, le système médical ne s'est dit, tiens, on va la dépister. Parce que c'est potentiellement une maman à risque. Mmh. Et en gros, ce que j'entends par une maman à risque, c'est qu'il faut savoir que ce virus-là, l'HTLV1, il se trouve en Afrique de l'Ouest, mmh. ce qu'ils appellent les régions endémiques. Donc, c'est les régions où il y a le plus de ce virus. C'est en Afrique de l'Ouest, mmh. en Afrique centrale, en Asie, et plus particulièrement au sud-ouest du Japon, en Amérique centrale et en Amérique latine. Donc, ça veut dire qu'en gros, on est des régions où ce virus est très, très important. Mmh.
Quand tu dis très donc, important, genre, est-ce que tu as des chiffres?
C'est-à-dire que ça touche 10 millions de personnes. Mm. Quand on sait que ça se transmet majoritairement de la mère à l'enfant par l'allaitement, mm-hmm. on est tous d'accord qu'en France, moi je parle que de la France, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais on est d'accord qu'en France, nous sommes une population qui n'est pas que blanche. Mm. C'est-à-dire que des mamans racisées de ces régions-là, donc même si elles sont nées en France, elles peuvent être porteuses. Mm. Attention, je ne veux pas affoler toutes les mamans, je tiens à le dire. Mm-hmm. Ma démarche est vraiment pour que nous, mamans racisées, sachions que nous sommes peut-être potentiellement des porteuses de ce virus-là. Mm-hmm. Je ne suis pas en train de vous faire peur, de dire non, il ne faut pas allaiter, tiens. Non, non, pas du tout. C'est vraiment dans une optique de se dire, ça fait partie des choses que les mamans racisées, malheureusement, on ne nous a pas informés.
Oui, mais c'est aussi des particularités. Hein. En tant que personne racisée, il y a aussi des choses bah, comme cette maladie, par exemple, qui touche essentiellement des personnes racisées. Ça, par exemple, n'importe quel médecin en France ne va pas nous parler de ça parce que ça ne touche pas la population blanche aussi.
Voilà, c'est ça. Et sachant que ce virus-là, alors je tiens à vous dire... C'est pas parce qu'on l'a qu'on va tous développer un cancer. Mm. Ça ne touche que 3 à 8% des personnes infectées. Mm-hmm. Donc, ils considèrent, le système médical considère que ce sont des maladies rares. Mm-hmm. Mais les pathologies qui sont liées à ce virus sont quand même des pathologies qui sont très difficilement soignables. Mm. En dehors des cancers, vous avez ce qu'ils appellent des neuromyélopathies. Donc, ce sont des lésions que vous avez au niveau de la moelle épinière qui est due à ce virus, en fait, qui crée des inflammations et qui crée des lésions à la moelle épinière. Donc, vous finissez paraplégique, quoi. Mm. Certes, ils estiment que ce sont des maladies assez rares, mais pour moi, 3 à 8 % pour moi, c'est quand même beaucoup. Mm. C'est pas infime. Donc, par contre, par exemple, au Japon, c'est 900 par an.
900 par an au Japon, d'accord. Par contre, au Japon, on est d'accord qu'il y a pour toute femme enceinte, voilà, pour toutes les femmes enceintes, elles doivent être dépistées systématiquement avant de pouvoir allaiter ou non.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai dit par contre, au Japon et dans certaines Caraïbes, donc quand je dis Caraïbes, je ne parle pas des Antilles françaises, hein, dans les Caraïbes, c'est systématique. Les mamans sont testées mm-hmm. avant de faire le choix de l'allaitement ou pas. Mm-hmm. Si elles sont séropositives, c'est comme ça que ça se dit, mm-hmm. si elles sont séropositives au HTLV1, elles n'allaitent pas. Elles font une alimentation artificielle, mm-hmm. du lait artificiel. Parce que, justement, les conséquences qu'il y a derrière cette infection sont tellement graves mm-hmm. qu'il peut être stoppé très facilement. Mm-hmm. Rien que d'arrêter l'allaitement, ben, on se demande pourquoi est-ce qu'en France, mm-hmm. c'est pas quelque chose de difficile à mettre en place. Juste à faire un dépistage. Mm-hmm. Pendant les prises de sang, comme pour la toxmo qu'on fait, ou pour la syphilis ou l'herpès ou le HIV, il y a juste à intégrer ça en plus dans les recherches et ça y est, c'est fait. Donc c'est quelque chose qui est que moi je veux vraiment alerter. Je suis la militante là-dessus. J'en ai parlé à mon médecin, j'en ai parlé à mon gynéco. En fait, je parle de ça à tout le système médical et je me rends compte qu'il y en a très peu qui sont sensibilisés à ça. Il y en a très, très peu. Et donc, je trouve ça très étonnant quand même.
C'est de transmettre en fait cette maladie, ce virus en fait à tes enfants. Enfin, c'est un risque que tu prends quand tu n'en as pas connaissance.
Voilà, sachant que moi, j'ai allaité assez longuement mes enfants, jusqu'à la diversification alimentaire, parce que je n'avais pas envie forcément de mettre du lait artificiel. Toi aussi, tu as allaité longtemps, tes filles. Hein. Et en fait, plus on prolonge l'allaitement, plus on a de chances de contaminer notre enfant. Donc en gros, on est. Moi, je sais que j'ai longtemps culpabilisé. Parce que quand j'ai su ça, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être contaminé même mes filles. Donc, c'est pour te dire, là, je n'ai même pas encore entrepris la démarche de les tester parce que je ne suis pas encore prête à le faire. Mais je me suis dit, mais j'aurais jamais dû allaiter, quoi. Et donc, encore une fois...
En même temps,
fois,
tu ne savais pas. Parce que,
je ne savais pas.
Toi, tu l'as appris, ta maladie, tu l'as appris il y a un an et demi. Ça veut dire que pendant tout ce temps où tu as allaité, après l'allaitement, tu ne savais pas tout ça. C'est quand les symptômes sont arrivés, c'est quand tu es tombée malade.
C'est quand j'ai été diagnostiquée que j'ai su que j'avais ce virus en moi et que c'est pour ça que j'avais un cancer. Mais à aucun moment de ma vie, on ne m'a parlé de ce virus. À aucun moment. Concrètement, je me suis aperçue de ça parce que j'étais énormément fatiguée. Après, quand on est une maman, on se dit toujours qu'entre son travail, les enfants et la deuxième vie, le deuxième travail à la maison, on se dit que c'est une fatigue normale. Et puis, j'arrivais pas à m'en remettre. Et puis, j'avais ce qu'on appelle des sueurs nocturnes. C'est-à-dire que je trempais mes draps. Hein. C'était pas des petites transpirations. Et puis, j'y suis allée. Je me suis dit, allez, hop, je fais un bilan. Ça se trouve, j'ai une petite carence. Et puis, quand les résultats sont tombés et que mon médecin m'a appelé en me disant, il faut qu'on se voit. Je me suis dit, ouh, le médecin qui veut te voir comme ça aussi vite, c'est que ça sent pas bon. Mais je m'en doutais parce que le labo, ils m'ont appelé en me disant, il faut qu'on vous voit.
D'accord. Vous venir, dans la même journée, si tu as ton médecin et ton labo qui t'appellent, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Et tu te dis, bon, OK. Et puis, quand on te dit, cancer du sang, bah, tu dis non, j'ai mal entendu, j'ai pas compris. Et puis j'ai fait tout le schéma, tout le parcours médical, hein, c'est-à-dire biopsie, reprise de sang, rebiopsie, recontrôle, test. J'ai eu tous les tests de virus possibles, inimaginables. Et puis quand le HTLV1 est arrivé et que c'était positif, là j'ai vu le système médical s'effondrer un petit peu parce que faut dire que cette maladie est tellement peu connue que j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont un peu fermé la porte au nez, quoi.
Qui t'ont clairement comprendre. Il y a eu une espèce d'agressivité, hein, clairement. Hein. Ouais.
J'étais gênante parce qu'ils n'avaient pas de solution à me proposer. Et c'est ce que je disais. Je dis, je peux comprendre que ce soit une maladie que vous ne sachiez pas gérer, mais il y a de l'humain derrière, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir des réponses claires et je n'ai pas forcément envie de me faire aboyer dessus. Et c'était déstabilisant parce qu'il a fallu que je tape du poing, il a fallu que je me fasse entendre pour dire, vous y arrivez pas, mais il faut essayer, quoi. Et je sais que la chance que j'ai, c'est que je suis suivie par un médecin, mon médecin traitant et un autre médecin qui ne baisse pas les bras et qui sont avec moi pour enfoncer les portes du système médical. Mais c'est très difficile d'être confronté à une maladie rare parce qu'en gros, on se bat contre sa maladie. Et on se bat, en fait, contre le système médical. Des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, c'est ça qui est très rageant. C'est de devoir se battre contre le système médical. Et d'être toujours en attente de courir après eux, alors que, comme je dis, je n'ai pas qu'une grippe, quoi. J'ai pas la grippe.
Quand tu vois le nombre d'appels que tu dois faire, le nombre de messages que tu dois envoyer, et que parfois on te dit, non, mais je ne sais pas. Quand on te répond, je ne sais pas. Encore,
je ne sais pas.
Voilà. Parfois, c'est même pas le cas, en fait.
Non. Parfois, je n'ai même pas de réponse. Et la dernière en date, la dernière anecdote, pour moi, c'est devenu tellement courant que j'appelle ça des anecdotes, c'est que je devais avoir rendez-vous. Le médecin qui m'appelle la veille en me disant, non, mais je ne vais pas pouvoir. Parce que franchement, c'est au-delà de mes compétences.
Ouais. Surtout que le rendez-vous a été placé plusieurs mois à l'avance.
Voilà, si ça fait 3 mois que le rendez-vous il est calé, la veille pour le lendemain, sachant que moi à chaque fois, comme je dois me déplacer, je dois aller à Paris, je dois aller, c'est ça, ça, la, niveau logistique, c'est compliqué. Il faut que mon mari pose des jours. Et donc en gros, je lui dis oui, je peux comprendre, mais vous avez attendu la veille pour le lendemain pour vous dire non, au final, je ne vais pas vous voir le lendemain, quoi. Donc c'est très compliqué et puis comme moi je suis j'ai un sale caractère ça s'entend pas, ça se voit pas, mais je sais pas que j'ai un sale caractère, non. C'est que je suis tenace,
voilà, on va dire plutôt ça. On peut dire que t'es loin d'avoir un sale caractère quand même,
mais je suis tenace. Et je suis tenace, et moi je veux des réponses, je veux des solutions, et donc je lâche pas l'affaire, donc je leur cours après.
On va dire que t'es très cartésienne. Je dirais pas que t'as un sale caractère, mais t'es quelqu'un de très cartésien et t'es une personne qui a besoin de réponses, oui, c'est sûr. Et c'est voilà, ce qui est tout à fait normal en fait, hein, en même temps. Après il y a des gens qui vont s'effondrer. Toi je sais que t'as besoin en fait qu'on t'explique et que tu comprennes.
Voilà, mais le truc c'est que moi j'ai un espèce de contrôle absolu sur moi, sur ma vie. Qui a toujours été le cas. Hein. Oui. C'est une manière pour moi de gérer mes angoisses.
Tout à fait.
C'est de pouvoir contrôler tout ce qui m'arrive. Mm-hmm. Et d'être malade comme ça du jour au lendemain, alors que j'ai toujours essayé d'avoir une hygiène de vie.
Ouais, t'étais la grande sportive, elle me faisait courir.
Voilà.
10 kilomètres, la fille. Non, mais combien de fois par semaine tu courais 10 kilomètres?
Je courais 4 fois par semaine.
Oh là là. Tu voulais et même
je m'entraînais
faire
pour pouvoir
voilà.
Le triathlon.
Le triathlon.
Et tout ça, c'est arrivé pendant ce moment-là. Ouais. Et donc, pour moi, c'était tellement incompréhensible parce que c'était pas possible pour moi. Et en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer sur le moment parce qu'on se dit, mais non, c'est pas possible, ils se sont trompés. Mm-hmm. Et puis après, au force de faire des examens. Et après, j'ai angoissé pour mes filles. Après, l'angoisse pour moi, ça a été pour mes filles. Grosse discussion maritale avec mon mari. On les fait tester, on les fait pas tester. Ouais. Un coup oui, un coup non.
Mais jusqu'à présent, hein.
Et jusqu'à présent, c'est toujours la question. C'est on les fait tester, on les fait pas tester. Oui, non, oui, non. C'est tellement fluctuant. Mm-hmm. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour le moment, on n'est pas encore fixé. Il y a des moments où on est pour, il y a des moments où on est contre. C'est surtout mon mari qui est contre. Mm-hmm. Parce qu'il a peur, en fait, il a peur du résultat. Mm-hmm. Moi, toujours dans mon idée de contrôle et d'anticipation, ben moi, j'ai envie de savoir.
Ouais.
Au début, je voulais pas, mais maintenant, je veux. Mm-hmm. Parce que je veux savoir si pour leur futur, comment ça peut s'envisager. Parce que en dehors du fait que ça peut créer des cancers ou des problèmes neurologiques dus à des lésions de la moelle épinière, ça crée d'autres maladies, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des uvéites, c'est-à-dire des inflammations de l'œil. Mm-hmm. Vous pouvez avoir des problèmes de peau. Vous pouvez avoir des problèmes de muscles, d'où même des inflammations dans d'autres organes. Par exemple, moi, j'ai eu une uvéite il y a 10 ans. Et en gros, j'ai failli perdre la vue de mon œil gauche. Ça peut créer un décollement de rétine.
C'était le premier signe. Hein.
Voilà, ça a été le premier signe, en fait, de mon infection HTLV1. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de savoir, parce que je me dis, pour leur parcours plus tard, même des problèmes de santé... Ben, on saura qu'avec ce virus-là, ben, il y a possibilité que telle ou telle maladie soit liée. Personnellement, moi, on m'a déjà proposé de faire des... Face à ma maladie, vu que c'est tellement rare, on m'a déjà demandé de participer à des études auxquelles j'avais dit oui au début, en pensant justement à toutes les personnes qui étaient atteintes comme moi. Mais je me suis dit, pour faire avancer la recherche, et puis pour mes filles aussi, c'est un peu égoïste, mais pour mes filles... Et au final, j'avais changé d'avis à un moment parce que j'avais l'impression d'être juste un cobaye, quoi, sur pattes. J'arrivais pour les biopsies, j'étais même pas rentrée quand on me faisait signer des papiers pour dire que j'étais d'accord pour que je donne un petit bout de ma peau ou un petit bout de mon ganglion ou un petit bout de je sais pas quoi, là. Mm-hmm. Et il y a un moment, j'ai dit stop. J'ai dit non, on voit le médecin, on discute et après, on verra si je suis d'accord ou pas pour donner une partie de moi.
Ouais, à chaque rendez-vous, il fallait que tu donnes une partie de toi, en fait, c'était ça.
Voilà, et donc en gros, je me suis dit non, on arrête là, stop. Je veux bien faire partie de l'étude, je veux bien faire avancer la science.
Mais il y a l'humain aussi.
Voilà, il y a l'humain. Et j'avais plus l'impression d'être l'objet de toutes les attentions pour pouvoir prélever des trucs sur moi. Mais j'étais pas l'objet de toutes les attentions pour savoir si psychologiquement comment j'allais, quoi, et comment je gérais ma maladie. Donc c'est très compliqué. Mais je tiens à dire que je suis quand même positive. Hein. mais ça fait partie de tout ce que parents racisés en fait fait pour le bien-être de son enfant. Mmh. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est pour toutes les mamans et tous les papas racisés d'inciter à un dépistage, ne même plus attendre qu'on propose, mais de le faire parce que le système médical le fait pas. Pour avoir un allaitement serein, pour avoir une grossesse sereine, pour avoir un développement serein, ça fait partie du bien-être. Que les parents racisés aillent au-devant de ça, parce que vu qu'on ne leur proposera pas forcément. Mm-hmm. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de maman me dire « oui, moi, on m'a dépisté pour savoir si j'avais le HTLV1 mm-hmm. ». Donc, pour que ce soit quelque chose que nous, parents racisés, on intègre dans nos parcours de santé.
Et justement, toi, comment tu l'as contracté ?
Il y a plusieurs voies de transmission. Donc, ça, c'est sexuellement transmissible, donc, c'est-à-dire de l'homme à la femme, pas de la femme à l'homme. Parce que vous voyez, moi, mon conjoint n'est pas du tout atteint. Mm-hmm. On l'a dépisté. Donc, c'est vraiment de l'homme à la femme. D'accord. Et après, c'est de la femme à l'enfant par l'allaitement. Donc, plus l'allaitement est prolongé, plus il y a de chances de contaminer son enfant. Parce qu'en fait, le virus passe par le lait et il passe par le système digestif. Parce que quand on est enfant, le système digestif n'est pas totalement construit. Mm-hmm. Et en fait, ce virus-là, il se clone, en fait. Il se clone dans nos cellules. Et c'est pour ça qu'après, ça se transforme en cancer, parce qu'en gros, il dérègle totalement le système immunitaire. Parce que imaginez, depuis l'enfance, il est dans notre corps, donc il a eu le temps de s'amuser, de s'intégrer à tout ce qu'il veut. Donc voilà. Par contre, je tiens à dire que quand on l'attrape adulte, on ne développe aucune maladie. Parce qu'en gros, il n'a pas le temps de s'intégrer à notre système immunitaire. D'accord. C'est quand on l'attrape enfant qu'on développe ce genre de maladie.
Donc, toi, tu l'aurais eu dès l'enfance ?
Moi, je l'ai eu petite, moi.
Petite, d'accord.
Je l'ai eu petite parce que, tu vois, pour l'allaitement. Voilà, on a testé mes frères, on a tous les trois été allaités, on est tous les trois positifs. Donc, voilà. Et par contre, j'ai un autre frère qui ne l'a pas. Parce que lui, il n'a pas été allaité. Il a été au biberon. Donc, lui, il est séronégatif. Mais nous, les trois autres, nous sommes séropositifs. Donc c'est vraiment l'allaitement, en tout cas la contamination pour les enfants, c'est vraiment l'allaitement. Et c'est là que les dégâts sont plus importants, parce que c'est là que le virus, il a tout le temps de s'intégrer et de causer les dégâts. Mmh.
Et est-ce que ça pourrait se traiter justement si c'était repéré dès l'enfance ?
Malheureusement, c'est un virus qui ne se soigne pas. Il n'y a pas de vaccin. Ils n'ont pas trouvé de traitement. Parce que c'est ce qu'ils appellent un super virus, c'est-à-dire que même s'ils trouvent un traitement, il devient résistant. Mm-hmm. Donc en gros, on va dire qu'au bout de 6 mois, ça peut être efficace. Et puis quand il y a rechute, ce qu'ils appellent les antiviraux, et en fait, il devient résistant aux antiviraux. Ce qui fait qu'en gros, c'est vraiment une petite bombe, ce virus. Mm-hmm. C'est une petite bombe dans le sens où ils n'ont pas trouvé de traitement pour le tuer. Concrètement, mais les pathologies qu'il crée sont aussi difficiles à soigner, parce qu'à aujourd'hui, le lymphome que j'ai, moi, il est chimio-résistant, c'est-à-dire qu'en gros, la chimiothérapie n'a pas d'effet, il y a toujours une rechute. Et la parapaisie, c'est pareil, qui est la deuxième, je dis toujours parapaisie, mais c'est parapaisie, enfin, j'arrive jamais à le prononcer. La deuxième maladie qui est causée par ce virus, qui crée des lésions à la moelle épinière et on finit allongé dans un lit à plus pouvoir bouger. Pareil, il n'y a pas de traitement. Il y a juste, il y a un traitement, mais qui ne soigne pas. Il y a un traitement qui est juste là pour ralentir les effets de la maladie, mais qui ne soigne pas. Donc, en fait, ce virus, certes, comme ils estiment que 3 à 8%, c'est pas un chiffre important, mais les conséquences derrière, les pathologies, elles sont lourdes.
Très
lourdes. Elles sont lourdes et très difficiles à soigner. Donc, à aujourd'hui, quand je vais à mes rendez-vous, j'en parle toujours à mon médecin et je lui dis, faites des courriers, faites des réunions, envoyez des courriers aux gynécologues, envoyez des courriers aux sages-femmes. Il faut vraiment sensibiliser le corps médical à ce virus. Parce que c'est vraiment... C'est tellement facile en plus de l'arrêter. On arrête l'allaitement et à la limite, si on voit que le conjoint est séropositif, rapport avec préservatif. Et puis après, si vous voulez un enfant, pas d'allaitement. Il y a toujours un moyen de stopper. Parce qu'à l'âge adulte, l'avoir le virus ne crée aucune maladie. Mais l'avoir enfant, en grandissant, les conséquences sont quand même très graves, quoi.
c'est important d'en parler et c'est important aussi que les professionnels de la santé, que ça soit les sages-femmes, les ligues pour l'allaitement, les personnes en fait qui parlent en fait autour de la maternité, de l'allaitement, puissent l'entendre aussi. Parce que tu sais que j'en ai parlé déjà, hein, avant qu'on en parle toutes les deux, avant qu'on se dise qu'on va faire cet épisode, j'ai essayé de parler autour de moi à des personnes qui faisaient des choses en disant, vous connaissez cette maladie, c'est une maladie quand même grave qui a des conséquences très lourdes et elle se transmet par l'allaitement. Et tout de suite, en fait, tu te rends compte que... les personnes vont se bloquer, ils vont dire « Oui, mais attends, parce que si je parle de ça, là, c'est tout de suite, c'est du genre « t'es contre l'allaitement ». Et en fait, c'est pas ça. C'est un droit de savoir aussi les risques qu'on peut encourir. Même si c'est que 3% de la population mondiale, c'est juste de se dire « Bah, ok, tu veux allaiter, il n'y a aucun problème, mais ce serait bien de faire un test ». Et c'est pas parce qu'on est... On milite pour quelque chose que ça veut dire qu'on doit occulter en fait tout ce qu'il y a autour. Et je sais que c'est pas facile. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de prévenir, de sensibiliser et de demander à faire des tests. Voilà. C'est pas grand chose.
C'est ça en fait. C'est juste un test, un test sanguin, sachant que quand on est enceinte, on en fait des tests. Hein. Mm. La Toxmo tous les mois, je l'ai eu, la prise de sang. Ouais. Donc c'est facile à dépister, c'est juste ça. Et comme dit Prisca, c'est vraiment pas, on n'est pas là pour fustiger l'allaitement. Au contraire, on sait tous que l'allaitement a quelque chose de bénéfique. Mais il ne faut pas occulter que quand on est malade et qu'on ne le sait pas, malheureusement, ça peut avoir des conséquences qui sont assez graves. Sachant que 3%, c'est pas énorme, mais moi, je fais partie des 3%. Oui. J'aurais préféré gagner au loto, ce n'est pas pour faire peur. Ce n'est pas pour que toutes les mamans qui vont écouter cet épisode soient en panique. C'est juste pour que vous sachiez que c'est quelque chose qui existe, pour que vous en parliez autour de vous.
Et en fait, derrière tout ça, c'est un réel combat pour qu'on écoute et qu'on croit en fait à tes symptômes. Derrière tout ça se cache aussi le syndrome méditerranéen. Hein.
Oui, c'est ça.
Réellement, ton médecin a été effrayé quand il a vu tes derniers tests, tes résultats.
Voilà, c'est ça, comme tu dis.
Et ça faisait des mois que tu l'alertais, que ça allait pas. Et comme il était assez loin en plus, il croyait que tu exagérais, quoi.
Que j'exagérais, en fait, c'est ça. C'est que moi, ma difficulté que j'ai, c'est hors de question que ce soit écrit sur mon visage malade. Donc je fais attention, je fais tout pour parce que pour mes filles, moi j'ai envie qu'elles aient une maman comme elles ont toujours connu avant, dynamique. Et moi c'est hors de question que je m'apitoie parce que c'est dans mon caractère. Comme je ne suis pas dans un état larmoyant devant eux, quand je leur dis écoutez, ça va vraiment pas, mais non. Et quand mes résultats arrivent, ok.
Mais c'était en panique.
Mais pourquoi vous? Attendez. On va mettre les choses au clair. Ça fait 3 mois que je vous dis quelque chose qui ne va pas, que c'est pas comme d'habitude. Non, mais j'imaginais pas ça comme ça. Vous imaginiez ça comment? Donc, au dernier rendez-vous, quand je suis allée et que j'ai eu mon contrôle, mon médecin, il est devenu blême. Il est devenu blême parce que quand il a vu mes résultats, quand il m'a vu et qu'il a vu l'état dans lequel j'étais, il m'a dit, je ne m'attendais pas à vous trouver comme ça. Je dis, vous pensiez quoi quand je vous envoyais des mails pour vous dire que ça n'allait pas? Donc, c'est ça aussi qui est très difficile à gérer, c'est de devoir justifier son mal-être. Alors que c'est ce que j'ai mis dans mon mail parce que on s'est frité. Hein. Ouais. on s'est frité. J'ai envoyé un mail, je vous dis pas lequel. J'ai mis les points sur les i.
Ouais.
voilà quoi. Parce qu'il y a un moment, c'est de se battre comme ça, de se dire tous les matins, allez hop, faut y aller. Et puis à côté de ça, d'avoir son médecin qui fait, oh mais c'est rien. C'est rien. C'est rien, vous inquiétez pas, pour une maladie qu'ils ne connaissent pas. Donc, j'ai trouvé ça tellement aberrant que je suis rentrée dedans. Je suis rentrée dans l'art, je suis rentrée dans tout le monde. Et puis, je me suis dit, de toute façon, vu que personne ne m'écoute, peut-être que je vais avoir une réaction. Et la réaction, je l'ai eue. Moi, maintenant, j'ai un suivi que je considère comme un suivi parce que j'ai tapé du poing et que j'ai gueulé. C'est le mot juste, j'ai gueulé. Et tout que j'ai dit que c'était inadmissible et que j'ai décidé d'arrêter toutes les collaborations pour les recherches. Et j'ai fait pression. J'avais pas envie. Je me suis dit, bah, peut-être que comme ça, ils vont m'écouter. Donc j'ai de l'écoute maintenant, j'ai du suivi. Mais au bout d'un an, ça a mis un an avant d'avoir un suivi à peu près correct. C'est-à-dire que tout est fait pour que mon quotidien soit vivable, chose qu'avant, je me débrouillais comme je pouvais, avec le soutien de mes médecins qui sont autour de moi. Mais comme ils disent, on n'est pas des spécialistes. Nous, on est que mon médecin traitant et mon dermatologue, ce ne sont pas des spécialistes. Donc, ils essayaient de me soutenir au mieux et les spécialistes n'étaient pas présents. Donc, maintenant, c'est fini. J'ai un vrai suivi, mais il a fallu lutter pour avoir un vrai suivi. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? On peut se laisser mourir, en fait. On peut se laisser mourir un petit peu. Et puis, on peut mourir justement parce qu'ils ne vont pas avoir vu que votre état s'est dégradé. Ou bien qu'ils vont se dire, non, en fait, elle fait de la comédie. Et je me dis, ça peut aller loin. Parce que moi, je me suis battue. Mais il y a combien qui vont se taire et qui vont souffrir comme ça jusqu'à arriver dans un état critique où c'est fini. C'est fini pour eux. Et encore, ce côté de la personne racisée et du soignant, c'est combien de fois j'ai senti un espèce de mépris de certains. Et le dernier rendez-vous, avant que ça clash avec mon médecin, mon mari était là, et on est sortis de là, et je lui ai dit, heureusement que tu étais là, parce que si je raconte le rendez-vous, la manière dont ça s'est passé, personne ne me croira.
Non, mais ce qui t'a dit, c'était...
C'était violent.
Ouais, c'était violent d'une violence.
En gros, il me dit, bah là, à part vous découper à la rondelle, je ne sais pas ce qu'on peut faire. OK, d'accord. Sachant que j'avais de la fièvre, que j'étais pas... Enfin, j'étais diagnostiquée, avérée. Mais dans son cheminement, il considérait que je n'avais pas une forme agressive de la maladie. Donc, tous les symptômes que je lui disais, ce n'était pas possible.
Mais alors qu'il s'était trompé.
Et voilà, il s'est totalement trompé. Et donc, du coup, quand on est sorti du rendez-vous avec mon mari, il m'a dit, mais je ne serais pas venue, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non. Il n'a pas pu te parler comme ça ou ça n'a pas pu se passer comme ça. Et bien, si, ça s'est passé comme ça. Et on est sorti, moi, j'étais KO debout, comme on dit, parce que je n'en revenais pas de ce que je venais d'entendre. D'avoir un médecin, sachant qu'on s'était tapé 800 kilomètres, je ne sais pas combien d'heures de train. Et puis tout ça aussi, il faut prendre en compte, hein, c'est que il y a la fatigue physique, mais il y a la fatigue mentale aussi, hein, c'est gérer tout le quotidien, enfin tout ça, et de se dire qu'en gros, malgré tous les déplacements qu'on a fait pour arriver à un rendez-vous, où le médecin n'a même pas tes résultats, il n'a même pas tes résultats de biopsie, il n'a même pas tes résultats
il s'était occupé de rien.
Ni de scanner, ni de rien. Et que t'arrives au rendez-vous, vous avez pas ci, vous avez pas ça. Ah non, bah moi non plus, je sais pas. Ok, voilà. Donc la légèreté de la situation n'est pas en rapport avec la maladie, quoi.
Et donc, toi, tu t'es tapé surtout ça que... au total 800 km aller-retour, quoi.
Voilà, aller-retour. Et donc ça part au clash, moi. C'est pour ça que j'ai clashé direct. Et après, je me suis dit non, là, ça va stopper direct. Mais tout le monde n'a pas la force de faire ça. Et puis tout le monde n'est pas en capacité de se dire, ben je vais essayer d'aller voir ailleurs et puis je vais lui rentrer dedans, quoi. Et donc c'est ce rapport aussi de domination qu'il y a avec le milieu médical qui est
le sachant.
Quand on est une personne racisée, voilà. C'est vraiment très très énervant parce que il y a ce côté nous on sait, toi tu sais pas, donc tu te tais. Et puis tu fais comme on te dit et puis si t'es pas contente de toute façon tu auras pas autre chose. Donc
ce rapport de domination, je pense qu'il est clairement installé de toute façon entre le patient et le médecin et le soignant. Mais quand t'es une personne racisée, il y a en plus comme on disait en fait, enfin t'es un sous-patient, on va dire carrément, quoi.
Voilà, t'es pas un patient, enfin t'es un patient qui vient après, quoi, parce que de toute façon t'en fais trop,
t'exagères,
c'est t'exagères, donc au final tu veux juste attirer l'attention, mais non, donc c'est pour ça que maintenant mon suivi est un vrai suivi, parce que maintenant j'ai des médecins compétents, j'ai une ribambelle de médecins. mais au moins c'est un vrai suivi et puis je vois que maintenant je suis écoutée, mais ça a été très long. Que il y a de la réactivité à chaque fois que j'envoie un mail ou que j'appelle, chose que j'avais pas avant. Et pour mon bien-être, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça fait ça en moi à lutter, quoi. Je me consacre à autre chose. Ma lutte se consacre à autre chose. Plus à être en affrontement direct avec le corps médical.
Bah oui.
Et c'est quand même quelque chose auquel on ne s'attend pas. Moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de résistance et à devoir me battre autant avec le système médical.
Et du coup, tu comprends tout à fait, toi, par exemple, on en a très souvent parlé, toi et moi, d'avoir eu une personne racisée, une infirmière racisée.
Ah oui. Moi, je trouve ça très important.
D'avoir une psychologue racisée.
Ah oui. Je trouve ça très important d'avoir un corps médical où il y a plus de personnes racisées. Mm-hmm. Enfin, après, ils s'étonnent, mais je fais partie des personnes qui pensent que des médecins racisés, c'est important. Parce que déjà, cette condescendance que j'ai ressentie parce que j'étais noire, c'est juste... Je voyais la différence pour les prises de sang, quand c'était des femmes, des infirmières racisées et que c'était des infirmières blanches. Le rapport n'était pas pareil. C'est que la prise de sang, déjà, elle se passait mieux. Je ne me faisais pas piquer une quinzaine de fois. Je finissais pas avec un hématome au bras. Et puis, c'était plus dans l'empathie pour les prises de sang. Mais de toute façon, avec vous, on ne les voit pas. Vous avez la peau trop épaisse. Ouais. Bah écoute, je ne sais pas, mais ta collègue, la dernière fois, elle m'a piqué. Elle ne m'a pas piqué 15 fois, quoi. C'est tout ça. C'est toutes ces réflexions que c'est plus possible. Tu ressors de là, tu t'es tellement fait piquer que t'as plus un bras. Sachant que moi, comme je fais souvent des prises de sang, j'ai les veines qui se sclérosent, donc ça devient encore plus compliqué. Mais ça devient de la boucherie, quoi. La dernière fois, j'ai dit, bon, stop là, parce que moi, c'est pas possible. Mais non, mais là, elle me sort, avec les peaux noires, vous avez la peau trop épaisse. On voit pas vos veines, en plus, elles sont trop fines et roulent. Et là, je l'ai regardé, je dis, j'ai dit, ça n'a rien à voir avec les peaux noires. Je dis, votre collègue, elle me pique très bien. Je dis, vous, ça va pas. Je dis, donc, c'est pas une question de peau noire. C'est que vous n'avez pas piqué, c'est tout. Et donc, du coup, moi, je suis devenue. En fait, je pense tellement à tous ceux qui n'ont pas la force de parler que maintenant, je leur rentre dedans.
Tu parles pour tout le monde.
Je parle pour tout le monde parce que j'en ai tellement marre d'être des petites réflexions comme ça, allez, envoyées par derrière. Et puis. Et puis tu dis qu'au début tu dis rien, mais au final tu dis non, tous les jours, quand t'es confronté à ça, quand t'es malade, pardon, mais c'est bon quoi, surveillez votre langage. Surveillez votre langage. Au final, elles étaient odieuses, les infirmières. Il y a un monsieur qui était là pour se faire faire un myélogramme.
Oui.
Un myélogramme, c'est une ponction de la moelle épinière, mais qui se fait sans anesthésie. Donc imaginez ce que ça peut être en termes d'angoisse et de douleur. Et ça faisait des heures qu'on attendait. Donc le monsieur, il en avait marre, donc il l'a fait entendre. Ben, ils ont eu du mal à lui faire le myélogramme. Tout ce qu'elle a trouvé à dire, elle a dit, c'est bien fait pour lui. Tu te rends compte? Dans la douleur du monsieur, elle n'a rien à trouver de mieux qu'à dire, c'est bien fait pour lui. Bien fait pour lui. Et puis moi, de voir ce pauvre monsieur qui souffrait comme ça et qu'elle n'a rien trouvé de mieux à dire que
c'était bien fait pour
tant
lui.
Pis pour lui. J'ai envie de dire, mais t'es soignant ou t'es pas soignant?
Non, plus, les personnes qui y vont, c'est pas pour rien, en fait. Tu vas pas pour un mal de gorge, quoi, tu vois. C'est quand même des pathologies lourdes.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que moi, dans le service où je vais, c'est le service ce qu'ils appellent le service au risque. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu des greffes, qui vont avoir des greffes, ou qui ont des cancers comme moi. Donc, tu te dis, l'empathie, elle est où, là, madame? Parce que les gens que tu as en face de toi, ils ont quand même des grosses pathologies, quoi. Donc, il est où l'empathie? Je peux comprendre peut-être qu'elle soit débordée, tout ce que tu veux. Mais c'est une personne en face, c'est un être humain qui est malade, qui a ses peurs, qui a ses angoisses, et à qui on parle comme si c'était un moins que rien, quoi. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un système médical avec plus de personnes racisées, c'est important. Oui. Parce qu'il y a du racisme dans le système médical. Et ça, c'est une réalité du milieu médical, vraiment. Parce que là, on va encore dire, oui, vous vous victimisez, machin. Non, c'est une réalité. Oui. Parce que
les gens qui te disent qu'on se victimise, c'est toujours des personnes, en fait, qui ne savent même pas de quoi on parle. Donc,
voilà. C'est ça.
Avant de dire aux autres vous victimisez, moi je suis pour qu'on fasse des études. Et en plus de ça, dénoncer le racisme quelque part n'est jamais une position confortable. Et en général,
non.
Tu te retrouves toujours avec le risque d'avoir toutes les personnes non racisées ou une majorité qui se trouve dans la pièce se liguer contre toi. Donc si c'est pour se victimiser, depuis le temps qu'on connaît le système, en fait, on fermerait notre bouche et on ne dirait absolument rien. Mais le fait de dénoncer un acte raciste ou ne serait-ce que juste employer le mot racisme face à des personnes non racisées, oh là 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 là, c'est le gros mot à pas dire, quoi, déjà. Donc oui, non, il faut arrêter avec ce côté se victimiser pour couper toute conversation, en fait.
Voilà, c'est ça. Au final, la médecine, c'est comme, on revient, c'est comme le système éducatif.
Ouais.
C'est du racisme systémique. Hein. Donc, c'est important de s'écouter aussi. Dans la maladie, c'est important de s'écouter, même si le corps médical ne nous écoute pas. Et moi, je sais que grâce au soutien de ma famille, de toi et de quelques médecins compétents, et dont je tiens à dire que mon médecin traitant est racisé, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un tel suivi. C'est que je l'ai choisi pour ça aussi.
Oui.
Donc moi, ça ne me gêne pas de le dire. Moi, j'ai choisi mon médecin traitant parce qu'il est racisé, parce que j'avais eu des déconvenues avec mes anciens médecins. Donc j'ai fait tout l'annuaire jusqu'à ce que j'en trouve un.
Ouais, et puis tu te sens en confiance aussi. En fait, il n'y a pas le, pas de préjugés normalement. Il n'y a pas de préjugés, on va dire, racistes derrière, quoi, tu vois.
Non. Et moi, à chaque fois, je pense à cette jeune fille qui est morte là, qui a appelé, le 15. Enfin, pour moi, c'est criminel. C'est criminel de parce qu'elle est morte, cette jeune fille. Elle est morte parce qu'on l'a pas prise au sérieux. Et je me dis, mais il y a combien de personnes racisées dans ce cas-là, tu vois? Donc, c'est très compliqué et vraiment, c'est encore une lutte qu'il faut mener soi-même. Hein. Donc, voilà. Et surtout, si vous avez envie de savoir vraiment ce que c'est que le HTLV1 et tout ce que ça crée, vous avez le site de l'Institut Pasteur, qui est assez concis, qui rentre pas trop dans les détails, mais qui donne des informations... assez importante. Et vous avez le site, moi je le trouve bien aussi, qui est assez clair, du Lactarium de Lyon, qui explique assez simplement aussi ce que c'est que le HTLV1 et comment s'en prémunir quand on est une maman et qu'on veut allaiter. Et donc ça, c'est important aussi.
Bah écoute, merci en tout cas à toi de nous avoir sensibilisés en fait sur le HTLV1. Je trouve que c'est vraiment, enfin, t'as eu raison de vouloir en parler parce que c'est important d'informer en fait les autres mamans et puis oui. C'était important aussi c'est pour toi en fait, tu souhaitais aussi expliquer un petit peu ce que tu traversais et pourquoi tu étais toujours
présente à 100% sur en visible, on va dire.
Voilà ce que j'allais dire. Parce que, sinon,
parfois, mon état est tellement... faut dire ce qui est. Hein, c'est que j'ai des lésions cutanées qui font que parfois, elles sont tellement importantes que c'est pas possible de me montrer physiquement. Parce que c'est quelque chose qui atteint aussi la peau. Donc, qui fait que physiquement, je peux pas tout le temps me montrer. Même maquillée, ça devient difficile à camoufler. Ouais. Et puis voilà, nous, on est dans une démarche de transparence et on voyait bien que ça commençait à soulever pas mal de questionnements aussi derrière notre projet, derrière mon implication et ton implication dans les enfants du bruit et de l'odeur. Et on voulait vraiment pas. Et donc, on voulait mettre les choses au clair pour qu'on sache que c'est quelque chose de ce qu'on traverse, parce que toi aussi, tu es là en soutien. Faut le dire, hein. Tu es là en soutien permanent pour mon moral et dans le suivi de ma pathologie. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on voulait en parler. Et que parfois, malheureusement, je ne suis pas présentable. et que... et que parfois, c'est malheureusement, il y a des moments où c'est tellement dur que physiquement c'est pas faisable. Mais voilà, ça n'empêche que je suis toujours impliquée dans les enfants du bruit de l'odeur, autant le podcast que la librairie, parce que c'est parce que ça fait partie du bien-être de nos enfants. Et, oui. Et ça fait, en gros, d'être malade, je me dis, en gros, en fait, quand t'es un parent racisé et un enfant racisé, en fait, la maladie, ça peut être encore quelque chose de tellement lourd. Et en fait, à chaque fois, je pense à tous ces parents et je me dis à tous ces enfants, je me dis, franchement, c'est quelque chose qui va être encore difficile, la maladie, à gérer. Et donc, ça fait, dans le cheminement des enfants du bol d'odeur, ça fait partie de ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'aussi, j'en parle, parce que ça fait partie de nos vies, de nos projets de vie, de nos parcours de vie.
Et des raisons aussi qui nous ont poussés à faire tout ça.
À faire ça, voilà. Okay. Donc, même si je ne suis pas visible, sachez que je suis là.
Elle est là, H24.
Et donc, du coup, Prisca a une part aussi assez importante, parce que du coup, c'est elle qui est énormément visible dans notre duo. Et la visibilité, ça n'a pas forcément que du bon. Hein. Donc, voilà. Donc, je tiens à dire que parfois, ce n'est pas évident pour elle à gérer. Donc, je la remercie d'être là pour ça. Non, mais c'est vrai, hein, ce n'est pas évident d'être exposée comme ça. Donc, c'est... Et puis, on n'a pas un blog ou un projet qui ne porte pas à, comment dire, qui cristallise, qui cristallise certaines réactions violentes. Donc s'exposer, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc voilà. Donc faut le souligner aussi.
Ah là là.
Mais de toute façon, on a prévu de faire un live, parce que je pense que pour éclaircir, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont aboutir avec ce podcast, je crois. Donc on fera certainement un live où vous pourrez poser des questions, voilà, si, ou même préparer des questions que vous avez envie qu'on aborde. On reçoit toujours des messages, mais n'hésitez pas à en envoyer. Donc voilà.
Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages à lesenfantsdubruitetdeleodeur@gmail.com.
Voilà, ou sinon Instagram,
ouais.
Facebook,
oui.
Twitter.
Voilà. Surtout, non mais il y a un truc qui est super important. Si vous voulez nous soutenir, allez sur iTunes. Oui. Partagez à tout le monde. Laissez-nous vos commentaires. Écrivez des trucs super sympas. Mettez-nous 5 étoiles. Non, réellement, pour la visibilité, c'est super important.
C'est important.
5 étoiles. Celui qui ne met pas 5 étoiles, là, je viens le voir.
Personnellement.
Non. Bon, bah écoute, hein, on va terminer sur ces bonnes paroles.
Oui.
Et 5 étoiles.
Voilà, sur ces bonnes paroles et 5 étoiles.
Bon, bah écoute, je te dis à bientôt, Ulrich.
Voilà, à bientôt. Et puis, à bientôt, les amis.
Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles.
5,
ainsi
5,
que
5.
De partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook.
Et sur Instagram, on est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com.
À très bientôt, Ulrich.
Enfin,
moi, quand je serai grande, je serai actrice.